Pour gérer l'image en ligne des célébrités ou des influenceurs, c'est tout un travail, c'est vrai, c'est des stratégies à élaborer. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de talents sont sous la lumière, sont aussi critiqués, sont adorés, et tout ça, ça génère un engouement énorme. Et ce qui est pour moi le plus important, c'est d'énormément travailler son image en ligne, de poster du bon contenu, de toujours rester professionnel, cool, good vibes, etc. Et surtout, ce qui est super intéressant pour des créateurs, c'est de montrer un peu qui ils sont réellement, parce que souvent, ce qui est sur les réseaux sociaux ne reflète pas qui est réellement la personne, et surtout de poster du contenu créatif, ludique et interactif.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Tristan.
Salut Alec.
Comment tu vas?
Très bien et toi?
Eh bien écoute, au top, très content de t'avoir ici pour cet épisode. Je vais rapidement te présenter afin de démarrer cet épisode. On parlait déjà depuis un petit instant en off. J'ai hâte justement de partager un maximum de valeur avec celles et ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, Tristan, tu es à la tête de Tristan Lab. C'est une agence de social media gérant non seulement le social media management de célébrités et la communication de diverses entreprises et lieux reconnus. Tu es aussi l'ancien social media manager officiel du groupe Energy. Également, tes parents sont les propriétaires du célèbre Villa Taj à Marrakech, où de nombreux événements ont eu lieu et cet endroit a fait l'objet de certains reportages notamment. Tu gères toute la présence en ligne de ce lieu, aussi la partie influence. Mais en plus de ça, tu es créateur de contenu à tête personnelle, également connu pour gérer la présence en ligne de certaines célébrités ou influenceurs connus comme Jade Hallyday ou Tom Pernod pour ne citer qu'eux. En gros, on va donc pouvoir parler de ton parcours ici aujourd'hui, mais aussi de stratégie social media. En long, en large, en travers, j'ai hâte de vivre cet épisode avec toi. Avant ça, et avant qu'on démarre et que je te pose ma première question, j'ai envie de partager encore une fois le retour d'un de nos auditeurs, d'une de nos auditrices ici en l'occurrence, qui nous dit une pépite, il s'agit de Jeanne, qui nous dit de loin le meilleur podcast business qui se distingue par la qualité de l'interview et des intervenants. Merci de nous délivrer de l'inspiration en barre comme ça. Merci Jeanne, et merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent. N'oubliez pas les 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et un avis sur Apple Podcast. Et à notre tour ici, Tristan, eh bien de délivrer une masterclass et de l'inspiration. Tristan, j'ai envie de démarrer par le commencement, tes débuts. Dès tes 15 ans, tu te retrouves à animer une radio. Comment on se retrouve à un si jeune âge à animer une radio?
Alors, tout d'abord, déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Et pour tout te dire, la radio pour moi c'est une passion, que j'ai depuis tout petit. Et quand j'étais jeune, j'étais à l'école et je n'avais pas forcément d'activité extrascolaire, on va dire. Donc je me suis dit un jour, pourquoi pas devenir animateur sur des web radios, donc des radios disponibles uniquement sur internet. J'écoutais énormément la radio, j'écoutais Energy, j'écoutais Fun Radio, etc. J'étais vraiment fan. Et un jour, je me suis dit, bon, je me lance et je vais, entre guillemets, postuler sur des web radios, donc des radios qu'on écoute uniquement sur Internet, sur téléphone, etc. Et en fait, c'était très compliqué de débuter pour moi dans ce monde-là, parce que pour se lancer dans la radio, surtout à cet âge-là, il faut être dynamique, il ne faut pas être stressé de parler, il faut avoir plein d'idées, etc. Et moi, ce que j'avais envie de faire, vraiment, c'est d'avoir ma propre émission où je pouvais parler de l'actualité people, musicale, etc. Tout en passant aussi des titres à la radio. Et donc pour ce faire, j'ai créé ma première maquette radio. Donc une maquette radio, pour expliquer un peu ce que c'est, un exemple, un court moment d'émission en situation pour que les personnes à qui j'envoie cette maquette voient comment ça pourrait rendre sur leur antenne, sur le digital. J'ai fait ça, j'ai enregistré ça. J'ai monté mon propre studio radio chez moi, dans ma chambre. J'avais tout un matériel, etc. Des micros, table de mixage, ordinateur. Enfin, c'était tout un truc, parce que c'est quand même assez compliqué. Et je me suis lancé comme ça. J'étais accepté sur ma première web radio où j'avais créé ma propre émission qui s'appelait Best Hit, où pendant 2 heures, tous les dimanches, présenter les nouveaux titres à la mode, l'actualité people, musicale, et ça me plaisait énormément. Au début, c'était compliqué parce que J'avais pas fait d'études pour ça parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles d'animateurs radio, mais j'ai pas forcément fait d'études ou autre. Et c'était vraiment, j'apprenais sur le tas et je m'améliorais de plus en plus pour qu'ensuite, à la fin, j'avais pas qu'une seule, enfin, pas que 2 heures d'émission par semaine, mais j'animais presque tous les jours sur cette web radio et c'était vraiment une passion pour moi. Et en fait, après les cours, j'étais vraiment heureux de rentrer chez moi. Bien sûr, je faisais mes devoirs aussi, hein, mais parce que je pouvais animer sur cette web radio, échanger avec les auditeurs via les réseaux sociaux. Donc à l'époque, quand j'avais 15 ans, c'était en 2015, c'était plus sur Twitter, parce que c'était l'époque où Twitter fonctionnait de ouf. Et j'adorais ça. Voilà en résumé comment je suis devenu animateur radio sur des web radios.
C'est super intéressant dans le sens où lorsque tu nous partages cette anecdote et ce passage de ta vie qui est peut-être le moment où tu t'inities aussi au fait de transformer un rêve, un désir, une idée en un projet concret et une réalité qui est au fait finalement la genèse de l'entrepreneur aujourd'hui que tu es avec ton agence et des différents projets que tu as. Ça paraît fluide, ça paraît simple, mais bon nombre de nos auditeurs ici qui nous écoutent, quel que soit leur âge, qu'ils aient 15 ans ou qu'ils aient 65 ans, ont aussi des projets et malheureusement, souvent, nos projets, on va les mettre de côté, on ne va pas forcément leur donner vie, on va avoir plein de croyances ou d'éléments qui vont faire que l'on ne va pas vouloir se lancer. Qu'est-ce qui fait, dans ton cas, le fait que tu t'es dit, peu importe mon âge, peu importe, comme tu l'évoques, le fait que tu n'as pas suivi de formation, que tu n'aies pas de diplôme, peu importe le fait que tu vas le faire depuis le fond de ta chambre avec un matériel improvisé, quand bien même c'est complexe, bah, tu te donnes les moyens, tu enregistres, tu vas trouver les contacts ou faire en sorte de créer des situations pour avoir les contacts pour pouvoir envoyer ça et derrière pouvoir démarrer et publier. L'idée, c'est vraiment qu'on prenne. Peut-être le déclic ou ce qu'il y a derrière ton esprit qui fait que tu oses là où la plupart justement n'osent pas aller et ce quel que soit le projet.
Oui, je vois. Bah, comme je disais, tout d'abord, c'est une passion. Avant de me lancer, bien évidemment, je passais mes soirées, mes week-ends et même mes vacances. Je me souviens encore, hein, quand j'étais chez mes grands-parents, je passais mes vacances à écouter la radio. Comme je disais, j'écoutais Énergie, j'écoutais Fun Radio, etc. Je suivais les animateurs sur les réseaux sociaux. Je faisais plein de recherches sur Internet. Je réécoutais les émissions, etc. J'étais vraiment passionné. Au début, c'était juste uniquement une passion. C'était pas forcément devenir animateur radio. Et en fait, un jour, comme tu disais, j'ai eu ce déclic où je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas moi? Même si j'étais quelqu'un à l'époque de très timide et de. Donc voilà, j'étais quelqu'un de très timide, j'avais pas forcément beaucoup d'amis à l'école, enfin, j'étais vraiment tout le temps dans mon coin. Et je me suis dit, bon, il faut que je me lance, même si ça marche pas, eh bien, tant pis, j'aurais essayé. Dans tous les cas, j'ai encore toute la vie devant moi, j'ai 15 ans. Mais bon, autant essayer, j'ai rien à perdre. Et voilà, donc je me suis lancé comme ça. Ça peut peut-être paraître simple quand je le raconte comme ça, mais c'était très compliqué, parce que c'était une période de ma vie un peu compliquée où j'étais, voilà, comme je disais, j'étais pas forcément le mec le plus populaire de l'école, etc. Mais j'ai réussi. J'ai eu beaucoup de critiques à l'école, je m'en souviens. Beaucoup de personnes qui se moquaient de moi, etc., parce qu'ils avaient écouté mes émissions. Alors, ils voyaient sur mon compte Twitter que je communiquais autour de mon émission à la radio, etc. Surtout que quand tu as 15 ans, les gens que tu côtoies de ton âge ne sont pas forcément dans le même délire, entre guillemets, que toi. Donc, c'était assez compliqué de gérer ça aussi. Mais je me suis dit, bon, tant pis, je vis de ma passion, je veux faire ça. Tant pis de ce que peuvent penser les autres.
Et en grandissant justement, ta passion pour la radio semble avoir été remplacée par la communication au sens plus large du terme. Est-ce qu'il y a un moment précis où tu as réalisé que la communication était bien plus qu'une passion finalement, mais un chemin de vie que tu voulais poursuivre pour créer de cette passion une vocation et donc notamment ton agence et les différentes activités entrepreneuriales que tu mènes aujourd'hui?
Bah, à cette période-là, quand j'étais animateur radio sur des web radios, où j'étais aussi à l'école, Moi, je viens d'une famille de communicants. Donc, mon père travaillait dans les médias, ma mère aussi travaillait dans les médias. Elle avait créé sa propre agence de communication. Et en fait, j'ai toujours vécu, entre guillemets, dans le monde de la communication, on va dire. Et je sais que plus je grandissais, plus je me développais, on va dire, intérieurement. Et je me disais, en fait, la radio et ce que je fais à côté sur mon compte Twitter pour communiquer autour de la radio, ben, c'est dans le domaine de la communication, de la promotion, etc. Et ce qui est un métier aujourd'hui, je le faisais par passion et parce que j'aimais ça. Donc, et je me souviens même, c'était à l'âge de mes... c'était à quel âge ? C'était à l'âge de mes 16 ans, parce que je me souviens qu'à 16 ans, j'avais un stage à faire pour l'école et je l'avais fait chez TF1 à la direction de la communication, un stage de 2 mois, stage d'école, et pendant ce stage, pendant les 2 mois, c'était ma première expérience, on va dire ma vraie expérience de gestion de réseaux sociaux, parce que je gérais les réseaux sociaux des chaînes du groupe TF1, avec bien évidemment l'appui du social media manager et de toute l'équipe. Et à l'issue de ce stage, je me suis dit, c'est ce que je veux faire comme métier. J'ai adoré. J'adorais aussi à cette époque-là la radio, mais je sais que je voulais travailler dans les réseaux sociaux, dans les médias et dans la communication. Donc, voilà comment j'en suis. Voilà, entre guillemets, pour moi, le déclic, ça s'est fait au moment de mon stage, de mon premier stage chez TF1 en 2016.
Ok, je vois. Et justement, à ce moment-là, sauf erreur, t'as 18 ans, c'est ça ?
J'ai 16 ans à ce moment-là. Okay. C'était un stage quand j'avais 16 ans.
Ok, et ensuite, à l'âge de tes 18 ans, donc tu travailles au sein du groupe TF1 dans un premier temps, puis tu switches 2 ans après chez Energy.
Oui. Oui.
Là, tu vas travailler aux côtés de certaines célébrités sur des événements reconnus comme Energy Music Awards ou encore Danse avec les Stars. Est-ce que finalement, travailler dans de grands groupes comme ceux-ci, ça peut, pour beaucoup, tu vois, on pourrait se dire, c'est une aubaine, c'est génial, c'est ouf, tu vas être au contact de célébrités, tu vas pouvoir faire des trucs énormes, mais compte tenu du fait que tu te lances et que tu es dans un domaine créatif, est-ce que parfois ça peut limiter les initiatives personnelles ? Est-ce que tu t'es déjà senti bloqué dans ce que tu voulais mettre en place ? Et est-ce que peut-être c'est une des raisons pour laquelle tu as eu la volonté par la suite, force de cette expérience que tu as pu accumuler hein, en quelques années seulement, certes, mais expérience quand même, de te lancer à ton propre compte pour suivre ta propre ligne ?
Oui, alors, comment dire ? Quand je suis rentré chez TF1, ma première année, donc j'ai eu mon bac en 2018, et ensuite directement je postule pour faire une alternance au sein du groupe TF1, parce que déjà dans un premier temps, je ne me voyais pas faire un cursus normal. Je voulais directement, vu mon passif, je voulais directement travailler. Et je m'en souviens même que je voulais directement lancer ma propre agence. Mais mes parents m'ont dit « Non, lance pas ton agence maintenant, garde ce projet pour plus tard. Déjà, il faut que tu aies de l'expérience en entreprise, il faut que tu fasses des études aussi. Ce n'est pas le moment de lancer ton agence, tu feras ça plus tard, donc travaille avant. » J'ai suivi leurs conseils, j'ai postulé chez TF1, ma première année d'alternance. Je signe donc un contrat de 2 ans, parce que j'avais envie de faire un bachelor dans un premier temps. Donc, je voulais vraiment rester 3 ans dans une entreprise. Mais TF1 m'ont offert 2 ans de contrat, donc j'étais super content. Vraiment, c'était, je m'en souviens de la sensation quand j'ai appris que, quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit oui, c'est bon. J'étais tellement content de rentrer chez TF1 et de me dire je vais travailler pendant 2 ans à la direction de la communication et des marques du groupe où je vais gérer les réseaux sociaux, etc. En plus, quand on voit TF1 de l'extérieur, c'est incroyable. Et même de l'intérieur, hein, bien évidemment. Toutes les émissions, les célébrités, toutes les personnes que tu peux rencontrer, c'était vraiment incroyable pour moi. Et donc, je rentre chez TF1. Et à l'époque, j'étais également créateur de contenu sur les réseaux sociaux parce que mes réseaux sociaux avaient grossi avec le temps grâce à la web radio, grâce aussi à mes amis influenceurs que j'avais réussi à me faire, etc. Et en fait, j'étais vraiment dans ce milieu-là. Et directement, ils m'ont mis à la gestion de réseaux sociaux du compte, des comptes TF1, TF1 Série Film, TV Braise, TMC, et à l'époque, c'était pas TFX, c'était NT1. Et on était une petite équipe, mais l'ambiance était super sympa. Mais à cette époque, voilà, comme tu le disais, j'avais plein de projets, j'avais plein d'idées. Moi, j'étais quelqu'un d'hyper motivé. Je voulais faire plein de choses, développer des programmes courses pour les réseaux sociaux, etc. Mais tu sais, le groupe TF1, c'est un très gros groupe. Et donc, moi, simple alternant qui veut faire passer, par exemple, un projet de programme court à destination du compte TF1, par exemple, eh ben, il y a une hiérarchie et c'est très compliqué parce que c'est très grand, on va dire. Et donc, oui, j'en ai proposé plein, il y en a plein qui ont été refusés, etc. Et je dirais pas que ça m'a frustré, je me suis dit, bah, c'est normal, c'est comme ça, je suis alternant, peut-être que j'en veux trop, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas grave parce que ce que je faisais à côté, chez TF1, ça me comblait, on va dire, entre guillemets. J'étais super content et je faisais que des trucs de ouf. Et donc, j'ai poursuivi donc, la deuxième année chez TF1, où là, pareil, gestion de réseaux sociaux, live tweet d'événements, invitation d'influenceurs, des influenceurs avec qui j'étais en relation, moi, j'ai eu l'autorisation, par exemple, de les inviter à des événements TF1. Je m'en souviens, on avait fait l'avant-première du Bazar de la Charité au Grand Rex, où j'ai pu inviter des influenceurs. J'ai également invité des influenceurs au lancement de Mask Singer, aussi l'émission, pareil, sur The Voice, etc. J'ai pu faire plein de trucs, c'était vraiment incroyable. Et ensuite, parce qu'il fallait que je fasse une troisième année pour avoir mon bachelor, ma deuxième année chez TF1, parce que j'avais fait, pendant mes 2 ans chez TF1, j'avais fait 2 Energy Music Awards. Parce que l'Energy Music Awards, c'est Energy, mais c'est diffusé sur TF1. Et donc, j'étais allé sur place à Cannes, au Palais des Festivals, avec les équipes, pour gérer les réseaux sociaux, live tweeter l'événement, etc. Et la deuxième année, je rencontre les équipes social media du groupe Energy, avec qui je me suis super bien entendu. Vraiment, ils étaient super, c'était une super bonne ambiance. TF1 Energy, c'était vraiment. Enfin, ils s'entendaient super bien, c'était trop cool. Et j'avais adoré leur mentalité, etc. Et ensuite, fin de ma deuxième année chez TF1, et là, je me dis, j'ai adoré TF1. J'ai adoré tout ce que j'ai fait, c'était super. Mais j'avais 20 ans, je me suis dit, bon, c'est le moment peut-être de changer pour voir comment c'est. J'ai fait côté télé et voir comment c'est radio, comment c'est du côté radio, tout en sachant que la radio, c'est ma passion depuis tout petit. Et moi, je m'en souviens quand j'étais petit, hein, je me suis dit, j'avais 16 ans, ou, non, j'avais 14-15 ans, et je me disais, un jour, je travaillerai à la radio, mon rêve, c'est de travailler. C'est soit de travailler chez Énergie, soit de travailler chez Fun Radio, soit je sais pas où, mais je voulais absolument travailler dans une radio. Et en plus, je m'en souviens à l'époque, c'était je voulais travailler dans une radio pour être animateur radio. Et là, avec le temps, j'ai découvert que ce que je voulais réellement faire, c'était pas animateur radio, mais travailler dans la communication, les réseaux sociaux, la promotion, etc. Donc, je me rapproche des équipes d'Énergie avec qui j'avais été en contact au Énergie Music Awards. Et je leur demande s'ils seraient OK de me prendre en alternance pour une troisième année pour mon bachelor. Je passe un entretien, etc. Bon, il y a tout un process, hein, enfin, j'imagine tout le monde fait. Il y a tout un process. Et à la fin, pareil, un appel. Et ils m'ont dit que c'était OK et que je pouvais faire ma troisième année d'alternance chez eux. Là, pareil, super content. Je me suis dit, c'est un rêve de gosse, en fait, d'aller travailler chez Énergie. Et surtout, eux m'ont dit directement, et je m'en souviens, ils m'ont dit à l'entretien, je leur expliquais que j'avais plein d'idées, j'avais envie de développer plein de programmes courts sur les réseaux sociaux, que je leur avais donné plein d'exemples, etc. J'avais préparé plein de trucs et tout. Et ils m'avaient dit que eux, dans le groupe Énergie, c'est une mentalité où. Un projet, c'est bon pour le groupe, tu le présentes, on dit oui ou non, et si c'est oui, tu commences direct. Ça, j'avais adoré parce que c'était, bon, bien sûr, il y a une hiérarchie hein, chez Energy, mais c'est beaucoup plus, on va dire, simple que chez TF1. Chez TF1, c'est normal, c'est beaucoup plus gros et c'est vraiment gros, comment dire. Et donc, direct, je suis arrivé première année chez Energy, j'ai fait plein de trucs, j'ai travaillé avec le social media manager, les autres community managers, etc. Et pareil, gestion de réseaux sociaux. Et surtout, j'ai eu l'opportunité. En fait, donné l'opportunité de pouvoir développer mon propre programme court à destination des réseaux sociaux qui s'appelait la Energy Speed Interview, où en fait, j'interviewais dans les studios d'énergie, donc pas à l'antenne, hein, bien évidemment, uniquement filmé et posté sur les réseaux sociaux, des influenceurs que j'invitais. Et en fait, le concept, c'était en une minute, ils devaient répondre à un maximum de questions autour d'actualités musicales, people et de leur actualité à eux. Et ça, ça a super bien marché et j'étais super content du résultat. On a fait des millions de vues sur TikTok, sur Instagram. Et c'était vraiment incroyable parce que moi, quand j'étais dans le studio, même si je savais que je passais pas à l'antenne et que c'était uniquement à destination des réseaux sociaux, j'étais dans le studio filmé avec des micros, etc. Et je me revoyais, moi, à 15 ans, en fait, dans ma chambre, en train d'essayer d'être animateur sur des web radios et qui était en train d'apprendre le métier, on va dire. Après, je dis pas que j'étais animateur radio chez Énergie, hein, pas du tout. Mais j'étais, on va dire, entre guillemets, présentateur d'un petit programme court sur les réseaux sociaux. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose d'hyper important pour moi d'avoir pu développer ça dans un groupe comme Énergie. Ça m'a beaucoup apporté personnellement. Et j'étais vraiment super content. Après, bien évidemment, j'ai fait plein de trucs, mais ça, c'était quelque chose qui a été vraiment incroyable pour moi.
Et outre justement cette dimension un petit peu plus flexible de Énergie par rapport à TF1, qu'est-ce qui fait selon toi que rapidement la direction soutient tes initiatives, tes volontés de projet alors que tu es relativement jeune? Et surtout, un autre point, c'est que à l'âge que tu avais, tu aurais pu être très rapidement positionné uniquement en exécutant, mais rapidement, tu deviens du coup social media manager officiel du groupe à seulement 22 ans. Qu'est-ce qui fait que rapidement, tu arrives à gravir aussi, de manière aussi fulgurante les échelons? Et dans quelle mesure tu te positionnes pour pouvoir atteindre ce niveau-là au sein du groupe? Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
Alors, la deuxième année, parce qu'en fait, j'ai signé une deuxième année pour faire un master chez Énergie à la fin de mon bachelor. Ils ont accepté, je leur avais demandé bien évidemment, etc. Pareil, c'était comme la première année, tout était parfait. Vraiment, c'était incroyable. Et en fait, au cours de ma deuxième année d'alternance, ils m'ont proposé un contrat, un CDD, de chargé de transformation digitale pour les réseaux sociaux, qu'Energie et Chérie FM. Déjà, j'étais choqué. En fait, je me suis dit, je suis en alternance, ils m'ont fait confiance, ils ont vu que ce qui était le cas, j'avais des résultats, les réseaux sociaux marchaient bien, j'avais plein d'idées, dès qu'ils avaient besoin de moi, j'étais là, je partais partout dans toute la France pour des émissions, des concerts et tout, j'étais tout le temps là, j'étais tout le temps présent et j'étais vraiment super content qu'ils me proposent ce contrat-là, surtout en cours d'année d'alternance. Et surtout, moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais comment je vais faire avec mes études, etc., parce que moi, je voulais absolument passer mon master, enfin bref. J'accepte. Et en fait, ce contrat-là, je devais appuyer le directeur de la stratégie digitale du groupe sur ses missions. Lui était plus sur la partie stratégie théorique. Et moi, en fait, je ramenais entre guillemets mon esprit pratique avec mon expérience, on va dire, jeune et sur le terrain, sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, pour suivre mes études, l'école m'a permis de poursuivre mes études en visio tout au long de l'année, le soir. Donc dès que je rentrais du travail, j'étais dans ma chambre et je travaillais les cours, etc. Et tout ça en visio. Ça, j'étais super content du côté de mon école qu'ils comprennent. Et en plus, eux trouvaient ça. J'étais dans une école spécialisée dans le digital. Donc pour eux, ils trouvaient ça super cool qu'ils me proposent un contrat alors que j'étais en alternance, etc. Et donc voilà, là je travaille avec un contrat normal et en plus l'école, donc je dormais jamais, clairement. Mais j'étais super content, j'adorais ça en plus. Énergie, c'est un groupe que j'aime vraiment beaucoup, donc c'était incroyable. Ensuite, le social media manager, donc qui était mon patron du groupe, décide de partir pour de nouvelles aventures. Et donc, le poste était vacant. Et on m'a proposé son poste en 2022, le temps de recruter un nouveau directeur social media. Et en fait, dans mes attributions, en plus de Énergie et Chérie FM, parce que quand j'étais en alternance, je m'occupais uniquement d'Énergie et Chérie FM, eh ben, je devais aussi m'occuper de Nostalgie et Rire et Chanson, donc en fait toutes les marques du groupe. Et ça, c'était, quand on m'a proposé ça, j'étais choqué, mais j'ai accepté direct parce que c'était vraiment mon travail de rêve et c'est exactement ce que je voulais faire. Et c'est et surtout dans une entreprise comme Énergie, c'est quand même incroyable, c'est un énorme groupe, c'est une radio, c'était une radio dans laquelle j'étais fan quand j'étais petit, et c'était là vraiment un rêve qui devenait réalité ce jour-là. Je m'en souviendrai toujours de ce jour, toute ma vie je me souviendrai de ce jour. Et voilà, et là en tant que social media manager, j'avais plein de missions précises, mais pareil, j'ai pu faire plein de trucs. En plus, je m'en souviens, j'ai pris le poste au moment des Energy Music Awards. Donc, direct, j'attaque avec le plus gros événement musical d'énergie. Et ça aussi, c'était vraiment, vraiment incroyable. Voilà, en résumé.
Ok, je vois. Et tout ça mène à une question, moi, qui m'intéresse et qui intéresse celles et ceux qui nous écoutent, j'imagine. C'est finalement, tu dis, voilà, c'était le métier de mes rêves, c'est une opportunité incroyable. Je me souviendrai toute ma vie de ce jour. Et tu as raison. Et pourtant, après un an dans cette position, après ta promotion, etc., tu décides de quitter le groupe pour créer ta propre agence. Donc finalement, après avoir atteint ce rêve, cette position et ce statut, entre guillemets, qu'est-ce qui t'a convaincu ou qu'est-ce qui a créé le déclic qui fait qu'à un moment donné, tu te dis « j'arrête tout ». Et je me lance, je crée ma propre structure.
Alors, donc le nouveau social media manager arrive, et moi je décide, et là je me dis en fait, je réfléchissais à côté, et je me suis dit, comme j'avais envie juste après le bac de directement lancer mon agence, ma propre agence, et en plus je m'en souviens, j'avais quel âge ? J'avais 17 ans, 16 ans, je ne sais plus exactement. J'avais créé un site internet de ma propre agence, etc. J'avais tout fait, etc. J'avais tout préparé parce que c'était vraiment un projet que j'avais, que je voulais mettre en place. Mais comme je te l'avais dit, mes parents m'avaient dit « travaille avant, fais tes études, etc. Mm-hmm. » Donc là, je me dis « mais en fait, c'est le moment de se lancer. J'ai l'expérience, j'ai travaillé 2 ans chez TF1, j'ai travaillé 3 ans chez Énergie. J'ai appris tellement de choses entre TF1 et Énergie, ça m'a apporté énormément. » De travailler dans deux groupes prestigieux. Et là, je me dis, c'est le moment. Bien sûr, je quitte le groupe et je me lance. Donc directement, je reprends mon site internet, je refais tout. Je ne dors plus. Clairement, je ne dors plus du tout. Je travaille jour et nuit sur ce projet-là. Et ensuite, je lance l'agence en juin 2023. Et voilà.
D'accord.
Après, ensuite, on rentre dans les détails.
Ouais.
Mais c'était pour répondre à ta question.
Et
t'avais vraiment un déclic de me dire le nouveau social media manager arrive. Donc, forcément, je ne serai plus social media manager. Là, je me suis dit, j'ai pas fait mon temps. Genre, j'avais bien évidemment envie de rester. Mais. Je me suis dit, c'est un projet que j'ai depuis longtemps, j'y pense tout le temps en fait, j'y pensais tout le temps à cette agence et je me suis dit, bon, c'est le moment.
Ok, je vois. Qu'est-ce qui fait que tu pensais tout le temps à cette agence ? Y a eu quelque chose qui t'a influencé vers la voie entrepreneuriale, que ce soit le contexte familial ou autre, parce que ce n'est pas anodin de se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a influencé là-dedans ?
Alors tout d'abord, j'ai travaillé avec beaucoup d'influenceurs. Comme je te disais, tu sais, entre TF1 et Énergie, je partageais régulièrement avec eux, avec les deux groupes, mon network d'influenceurs personnels avec qui j'avais l'habitude de travailler ou alors avec qui j'étais juste tout simplement très copain. Et il y a des personnes avec qui j'ai... des influenceurs, célébrités avec qui j'ai pu travailler et avec qui je m'entendais super bien, avec qui on était devenus super communs, etc., qui faisait que me dire oui, il faut qu'on travaille ensemble, etc. Je suis sûr que tu pourrais faire plein de trucs hyper cool si tu étais indépendant, etc., etc. Donc ça, d'un côté, ça m'a fait réfléchir. Et d'un autre côté, à côté de mes études jusqu'à mes... Je ne sais plus quel âge exactement, mais j'aidais beaucoup mes parents à la villa, donc dans leur villa, la Villa Tage à Marrakech, sur toute la partie stratégie digitale, réseaux sociaux, etc. Donc, en fait, clairement, je gérais leurs réseaux sociaux, les réseaux sociaux de la villa. Je m'occupais de plein de trucs. Je m'occupais des shootings, je m'occupais d'inviter des influenceurs à la villa pour promouvoir la villa à l'époque, etc. On faisait des jeux concours, on faisait plein de trucs, etc. Et à ce moment-là, donc, quand je réfléchis sur le moment de lancer mon agence, je me dis, bon, d'abord, j'ai des influenceurs qui souhaiteraient travailler avec moi, donc ça, c'est super cool. Et j'ai aussi la villa de mes parents à Marrakech, avec qui j'ai déjà pu travailler. Mes parents m'ont fait confiance. Et donc, je pourrais vraiment reprendre le truc aujourd'hui, en 2023, les réseaux sociaux de la villa, et en faire un truc de ouf. Donc là, ça m'a motivé et je me suis dit, si je commence comme ça et que je prouve en fait ma valeur grâce à la villatage et aussi voilà ce que je peux apporter, ce que je peux faire, etc., je vais réussir peut-être à avoir d'autres clients, que moi mon rêve c'était d'avoir plein de clients, etc. Et donc je me suis lancé. Et je sais aussi, j'ai oublié, mais à cette période là j'allais souvent en soirée avec mes copains le week-end, etc. On sortait dans la boîte de nuit L'Arc à Paris, du groupe MoMA. Et j'allais souvent avec des influenceurs là-bas, avec mes copains. Et je me suis rapproché de la direction de ce club, et qui me suivait beaucoup sur les réseaux sociaux, qui voyait ce que je faisais chez Energy, ce que je faisais aussi chez TF1, etc. Et eux aussi voulaient beaucoup travailler avec moi. Et moi, c'est une boîte de nuit, mais c'était ma boîte de nuit, encore aujourd'hui, préférée. Et on passe des soirées incroyables là-bas. Et ils faisaient que me dire, oui, il faut qu'on travaille ensemble, on pourrait faire plein de trucs géniaux ensemble, etc., etc. Donc, toutes ces choses-là, entre la villa, l'arc, les influenceurs, etc., ça m'a motivé et conforté dans l'idée qu'il fallait que je me lance et que je lance cette agence, un projet que j'avais depuis, en fait, toujours.
Ok, je vois très clair. Et justement, lorsque tu lances ta propre entreprise, ta première entreprise, c'est un vrai challenge. Mais finalement, le vrai challenge, c'est aussi le changement de mindset, de passer de salarié à entrepreneur. Pour beaucoup, ils sont dans cette phase de réflexion encore, et on l'est tous à un certain moment, c'est normal. C'est quoi les plus grands challenges auxquels tu as fait face dans le cadre de ce processus? Comment tu as réussi à opérer ce switch pour aujourd'hui, du coup, avoir pu structurer ça et avoir des clients plutôt intéressants et stimulants?
Alors, c'est vrai que le changement n'est pas si simple, parce que de passer à salarié avec toute une hiérarchie, chaque décision, je devais la faire valider, etc., ce qui était normal par mon N+1. Mais j'ai quand même réussi facilement à faire le switch de passer à salarié à entrepreneur. Et en fait, ce que j'ai adoré et ce qui m'a permis de faire de passer facilement le cap, on va dire, c'est qu'en fait, quand tu es entrepreneur, même si il y a beaucoup de problématiques, tu prends tes décisions et tu n'as pas besoin de les faire valider, d'attendre une réponse. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est tu prends ta décision, enfin, tu réfléchis, tu prends ta décision et tu l'appliques. Et ça, pour moi, c'était quelque chose d'hyper important, parce que j'ai pu avancer super rapidement sur mon agence, et j'ai pu avancer super rapidement, et ça m'a vraiment aidé. Et c'est, pour moi, je pense, le truc le plus important dans ce switch là c'est de se dire, en fait, bon, c'est stressant, en fait, de se lancer tout seul, parce qu'avant j'ai toujours été accompagné, j'avais toujours été dans une équipe, etc., et là je suis tout seul, mais au moins je peux prendre mes propres décisions et je peux avancer rapidement et comme je le veux.
Très clair.
Et ça, pour moi, ça m'a vraiment permis de passer le cap, en fait, et de déstresser. Hein.
Et cette agence, tu l'as lancée à combien de temps ?
J'ai lancé en juin 2023.
D'accord. Et tu l'as lancée seule ?
Tout seul, oui.
Ok. Et justement, quand tu lances seul une agence, un business de ce type, etc., vient un moment où tu dois faire du marketing, tu dois faire du commercial, tu dois gérer au quotidien ta structure, tu dois en plus réfléchir à différentes stratégies pour tes clients. Comment tu trouves l'équilibre entre tout ça? Parce que finalement, tu avais acquis une certaine expérience autour d'un métier qui est le social media management, que tu maîtrises, que tu gères. Et là, tu te retrouves à devoir en apprendre un nouveau qui est complètement différent, qui est celui de l'entrepreneuriat, qui regroupe des dizaines de métiers différents.
Oui, c'est vrai. Alors, donc au tout début de mon agence, j'ai commencé à travailler avec la Villatage à Marrakech, avec le groupe MOMA, mais dans la partie clubbing, donc l'Arc Paris et l'Alma Club, avec ces deux clubs. Et donc au début, j'avais ces trois clients. J'étais super content. Et je considère, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, en fait, j'ai eu souvent des remarques en disant « Oui, c'est pas forcément un client, c'est la villa de tes parents, etc. etc. » Mais moi, je considère la villa comme un de mes clients parce que quand je travaille avec la villa, et je suis souvent je travaille souvent avec mes parents parce que c'est la villa de mes parents, mais on est en mode professionnel. Et ce que j'aime beaucoup avec mes parents, c'est qu'ils me... Quand on est en mode travail, on va dire, ils me considèrent comme la personne qui s'occupe des réseaux sociaux, de la stratégie digitale, des influenceurs, des célébrités, etc., de la villa. Et ils ne me considèrent pas comme leur fils. Donc, on est vraiment dans un mood professionnel. Et ça, j'aime beaucoup parce que j'étais un peu réticent au début de l'idée. Je me suis dit, bon, ça va peut-être être compliqué de travailler avec mes parents sur ce projet-là. Mais en fait, ils m'ont fait confiance et ils me traitaient comme une personne qui n'était pas forcément leur fils et du coup, avec qui on pouvait avoir une relation totalement professionnelle quand on était en mode travail. Donc ça, j'étais super content. Et ensuite, l'Arc et l'Alma, pareil, on a fait plein de choses ensemble. Pour eux, je gère toute la partie social media, influence et célébrité, donc toute la gestion de réseaux sociaux, de la création de contenu, l'invitation d'influenceurs, célébrités. Je sais que dernièrement, j'ai pu inviter le rappeur Central C à l'Arc ou... On fait plein d'opérations comme ça. Et ça, c'est vraiment top. Mais après, oui, comme tu disais, j'étais spécialisé dans le social media management en entreprise. Et là, quand je passe entrepreneur et entre guillemets, patron de ma propre boîte, ma propre agence, je développe, comment dire, plein d'autres compétences, en fait, que j'avais en moi, on va dire enfouies en moi, mais... des compétences qui sont totalement naturelles pour moi, qui est pas que uniquement de la gestion de réseaux sociaux, de poster, de créer du contenu, etc., mais d'avoir plein d'idées, de matcher influence et social media management, de créer du contenu, avoir des idées de programmes courts, etc. Enfin, il y avait plein de choses qui se mélangeaient, mais que j'arrivais à structurer. Et oui, j'étais seul, et ça me prenait beaucoup de temps, mais je suis encore seul aujourd'hui, hein, ça me prend toujours... et encore plus de temps, mais je travaille avec une équipe en freelance, des talents que j'active en freelance, photographe, vidéaste, webmaster, etc., des personnes en qui j'ai confiance, avec qui j'ai pu travailler auparavant, et ça, en fait, je pense que ce qui est super important dans ce métier-là, surtout quand tu te lances seul, c'est les personnes que tu vas activer, par exemple, en freelance, qui vont t'aider, t'appuyer, t'épauler sur des projets, que ce soit des personnes de confiance et qui ont la même vision que toi. Et moi, c'était quelque chose dont j'avais peur au début parce que je suis quelqu'un, j'ai envie de tout faire seul. J'ai mes idées, j'ai mes projets, j'ai mes convictions. Donc, chaque client, j'ai envie de les gérer seul, etc., d'être sur place tout le temps, etc. Mais bon, quand au bout d'un moment, tu arrives à avoir un certain nombre de clients, tout faire tout seul, c'est pas possible. Donc, je travaille avec, comme je le disais, donc voilà, une équipe en freelance, avec des gens de confiance qui ont la même vision que moi et qui ont les mêmes compétences que moi et qui sont super cool. Et voilà.
Ok, très clair. Plusieurs questions me viennent, notamment vu qu'on a la chance d'avoir ici quelqu'un qui est, on va dire, en phase de démarrage de cette activité. Ça fait moins d'un an que tu l'as lancé et pourtant, du coup, tu travailles déjà avec certaines... célébrités, certains influenceurs ou autres. Et donc, ce sont, j'ai envie de dire, des clients relativement intéressants que beaucoup de gens aimeraient potentiellement avoir, approché ou autre. La première, c'est comment est-ce que tu as constitué un réseau n'étant pas forcément toi-même une célébrité ou un influenceur ou quelqu'un d'extrêmement connu, pour pouvoir approcher cette typologie de personnes, parler le même langage, gagner leur confiance, les closer, donc les convertir en clients et leur apporter un maximum de valeur.
Alors, donc comme je le disais, pendant toute... en fait, je vais t'expliquer ça en deux temps. Le premier temps, c'était de ma période d'animateur radio sur des web radios de 14 ans à 18 ans, en fait. C'est ma première période où là, comme je l'expliquais, c'était le démarrage, entre guillemets, de ma vie professionnelle, on va dire. Je réfléchissais à ce que je voulais faire, etc. Mais à côté de ça, parce que oui, j'avais comme passion la radio, oui, j'avais l'école, etc. Mais d'un autre côté, j'avais des amis, bon, pas beaucoup, mais plus je grandissais, plus j'arrivais à me développer, à être moins timide, etc. Donc, je pouvais de plus en plus avoir d'amis, etc., parce que j'étais quelqu'un de très timide. Et j'ai commencé, et je sais que ça a commencé, en fait, je m'en souviens, c'est quand on avait fait la soirée de lancement du film Aladdin à la Villa Tage à Marrakech. Il y avait eu Kev Adams, Jean-Paul Roux, Vanessa Guide, etc. Enfin, il y avait tous les acteurs. C'était super. Et là, à côté de ça, j'étais... en plus, je m'en souviens parce que j'adorais la musique. Je mixais aussi un peu de temps à autre. Et donc, à cette soirée-là, j'avais mixé. J'avais... à la villa, on a des platines. Comme j'adorais la musique et que j'avais appris à mixer, etc. J'avais mixé pour cette soirée-là. Et on s'était hyper mal entendu avec Kev Adams. On avait fait des photos ensemble, etc. Je m'en souviens. Enfin bref, ma tête est... J'étais jeune, ma tête est horrible aujourd'hui, mais bon, elle est encore sur Internet. Et ça avait créé un peu le buzz sur Twitter à l'époque, je m'en souviens. Et ça m'avait donné un peu confiance en moi parce que j'ai recevé des messages super gentils. Enfin, des messages gentils de personnes qui me disaient que c'était cool ce que je faisais à la radio, que c'était super sympa, etc. Des gens qui me découvraient, en fait. Et ça m'avait donné confiance en moi. Donc là, petit à petit, j'ai pu devenir beaucoup plus sociable, on va dire, avec tout le monde. Et j'ai connu, en fait, dans mon cercle, grâce à mon école, etc., des personnes qui étaient influenceurs, etc., avec qui je me suis super bien entendu. Et voilà. Ça, c'était ma première partie. Et ma deuxième partie, qui est de mes 18 à mes 23 ans, où là, avec TF1, Énergie, etc., tout ce que j'ai pu faire, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes. Ça m'a vraiment donné confiance en moi, etc. Et j'ai pu apprendre beaucoup de choses et surtout mettre en lien mon réseau personnel, on va dire, et les deux groupes. Et ça, ça m'a beaucoup aidé aussi.
Ok. Je reformule d'une façon également différente ma question pour aller plus loin dans ton propos. Ce qu'on identifie ici, c'est que de par des expériences personnelles, des situations spécifiques, tu as su créer un lien de proximité avec certaines personnes influentes, connues ou autres. Et en plus de ces situations, tu as généré d'une part du lien et d'autre part de la confiance en toi pour pouvoir les approcher et créer des situations propices à des opportunités. Mais souvent, lorsque l'on fait ça, on arrive difficilement, tu sais, passer ce cap de la relation, on va dire, amicale à la relation professionnelle. Tu l'évoquais d'ailleurs tout à l'heure lorsque tu parlais du fait que tu travaillais avec tes parents et que tu étais finalement prestataire de service pour la Villa Tage. Tu arrivais à faire la dissociation des deux. Cette notion-là, elle est relativement rare dans la plupart des business, pour la plupart des gens. Et souvent, on arrive à se constituer un réseau personnel grâce à différents éléments de contexte, mais on a de la difficulté à les transformer en relations professionnelles. Dans ton cas, est-ce que tu aurais quelques conseils à partager à celles et ceux qui nous écoutent? Parce que j'imagine, compte tenu du fait aussi que ça fait moins d'un an, encore une fois, que tu as développé cette agence, que tu as déjà des bons clients. Ces clients, tu as envie de capitaliser dessus aussi, j'imagine, en leur apportant résultats, satisfaction, un service de qualité pour qu'ils te recommandent à d'autres, de manière directe ou indirecte, pour pouvoir développer justement cette agence.
Mes conseils, ce serait... En fait, oui. Comme je travaille d'un côté avec mes parents et d'un autre côté aussi avec des amis, Par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé avec des influenceurs qui sont avec qui je suis super pote. Mais en fait, quand on est dans le mood de travail, on se met vraiment dans le mood de travail. On n'est pas du tout en mode on va rigoler, etc. C'est vraiment pro. En fait, si la personne en face de toi est quelqu'un de pro et de structuré, ça va être super simple. Et moi, je suis comme ça. Je suis quelqu'un vraiment de structuré et de pro. Donc, j'arrive vraiment à dissocier perso et pro, même si les deux se rejoignent. Mais en tout cas, quand tu es face, par exemple, à une personne qui a du mal à dissocier les deux et qui, je sais pas trop comment dire, mais qui a, oui, voilà, qui a du mal à dissocier les deux, c'est sûr que c'est plus compliqué, mais en fait, c'est à toi de gérer la situation et de manager la personne et de tout le temps rester pro et d'avancer point par point sur chaque sujet. Et d'être au maximum professionnel, voilà, je dirais.
Très clair. Je pense qu'il y a un truc qui ne trompe pas, c'est finalement, au-delà du professionnel et du statut que ça va te donner, c'est le fait de donner des résultats.
C'est ça.
Aujourd'hui, ton domaine d'expertise, finalement, c'est la communication. Alors, y a plusieurs sujets dans la communication, notamment. Il y a des sujets d'image, il y a des sujets de notoriété, il y a des sujets de visibilité, il y a du sujet d'éducation, parfois élever le niveau de conscience d'une audience, il y a des sujets de conversion directement. Selon la typologie de clients que tu vas avoir, selon les objectifs que tu vas avoir, les briefs que tu vas avoir, va y avoir des méthodes et des stratégies de communication à établir qui sont propres au contexte. Typiquement, si on prend les célébrités aujourd'hui, elles sont souvent sous la lumière avec une attention constante sur leurs moindres faits et gestes. Comment est-ce que tu vas établir une stratégie de communication pour quelqu'un qui est visible, qui doit faire attention à son image, qui peut-être a une audience qui peut influencer, donc qui va être encore plus passé au script par rapport à ce qu'il va communiquer ou autre, éviter des situations de crise, éviter même la controverse parfois. Est-ce que c'est quelque chose, j'imagine que oui, mais qui rentre en ligne de compte dans ton quotidien lorsque tu vas établir des stratégies, des briefs ou autres? Comment tu gères ça au quotidien pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être auraient eux aussi envie de retranscrire finalement cette stratégie à leur échelle ou même qui auraient un intérêt réel à en comprendre les rouages?
Alors, pour gérer, on va dire, l'image en ligne des célébrités ou des influenceurs, c'est tout un travail, c'est vrai, c'est des stratégies à élaborer. Parce que, comme tu le disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de talents, moi je les appelle comme ça, les talents influenceurs, sont sous la lumière, sont aussi critiqués, sont adorés. Et tout ça, ça génère un engouement énorme, souvent pour des créateurs de contenu. Et ce qui est pour moi le plus important dans ce point-là, c'est de travailler, d'énormément travailler son image en ligne, de poster du bon contenu, de pas poster du contenu qui peuvent peut-être susciter de la haine ou autre, de toujours rester professionnel, cool, good vibes, etc. Et surtout, ce qui est super intéressant pour des créateurs, c'est de montrer un peu qui ils sont réellement, parce que souvent, ce qui est sur les réseaux sociaux ne reflète pas qui est réellement la personne. Et donc, de montrer que, par exemple, une personne qui, je sais pas, peut être pas forcément aimée, par exemple, sur les réseaux sociaux, mais en fait, en montrant qui il est ou qui elle est, va faire changer la vie de tous les internautes et de dire, mais en fait, cette personne-là est super cool, c'est pas ce que cette personne-là nous montrait, etc. Et donc, ça, moi, pour moi, je trouve que c'est hyper important de montrer et d'être très, comment dire, personnel sur les réseaux sociaux et de montrer comment les gens sont réellement et surtout de poster du contenu créatif, ludique et interactif. Et voilà. Ça, pour moi, c'est super important. Et aussi de pas, c'est ce que je dis tout le temps avec les personnes avec qui je travaille, de ne pas prendre part publiquement quand ça arrive aux polémiques, aux au drama, comme on dit, et, etc. Et ça, c'est des choses qui, pour moi, sont censées se régler en privé, ou alors juste de ne pas y prêter attention et de laisser passer et continuer sans faire attention et sans... Parce que ce qui est compliqué aussi, c'est que quand on a des critiques, et je sais parce que j'en ai eu aussi, donc j'en suis témoin, on va dire, c'est compliqué parce que même si on dit, et moi je le disais, je m'en fiche des critiques, etc., les gens disent que c'est nul ce que je faisais sur des web radios, etc., bah en fait, ça me touchait au fond de moi, et... mais c'est ce qui aussi, d'un autre côté, m'a permis d'avancer. Parce que les critiques, je les écoutais, et même si ça me vexait et ça me mettait mal, ça m'a d'un autre côté un peu aidé, mais j'y prenais pas part publiquement. Je voulais pas être quelqu'un qui, en fait, est suivi sur les réseaux sociaux uniquement parce qu'il prend part aux embrouilles, etc., aux polémiques. Donc voilà.
Ok, je vois. Un autre sujet aussi qui intéresse beaucoup nos auditeurs, finalement, c'est le marché de l'influence. C'est ton quotidien, le marché de l'influence, que ce soit pour tes clients en direct ou la Villa Tage, tu l'évoquais tout à l'heure, ou différents projets sur lesquels tu peux être amené à travailler. C'est quoi ton processus de sélection des influenceurs ou des marques pour certaines collaborations? Comment est-ce que tu t'assures, en tout cas, tu vas mettre en place peut-être un process qui va maximiser tes probabilités que ces partenariats soient bénéfiques pour les deux parties, le plus fructueux possible, et que derrière, chacune des parties soit satisfaite de par le succès de l'opération?
Alors aujourd'hui, je procède avec... j'ai un network, on va dire, d'influenceurs et de célébrités. Donc, c'est un document qui regroupe tous les profils avec lesquels je travaille, que ce soit influenceur ou célébrité, talent, etc. Et en fait, aujourd'hui, quand je travaille avec de nombreuses marques dans la partie influence célébrité, parce qu'en fait, j'ai deux pôles dans mon agence. J'ai le pôle social media, gestion de réseaux sociaux, création de contenu et le pôle influence célébrité. Et dans ce pôle-là, donc j'ai tout un network avec des personnes avec qui je travaille. Donc, j'ai des personnes avec qui je travaille, on va dire, beaucoup plus que d'autres parce que je travaille également avec des talents qui sont dans d'autres agences. Donc, à ce moment-là, je travaille avec ces agences-là en co-agence, c'est ce qu'on appelle ça comme ça. Et là, par exemple, prenons un exemple, une marque me contacte ou je contacte une marque avec qui j'aimerais ou un influenceur avec qui j'aimerais travailler. Et cette marque me contacte et souhaiterait travailler avec des profils. Donc, j'envoie directement mon network, on va dire. Et ensuite, la marque voit quel profil peut correspondre en fonction des statistiques, de la visibilité, du profil de l'influenceur, de l'image, etc. La marque fait sa sélection et ensuite on en discute. Il faut en discuter aussi avec le talent, savoir si il ou elle serait OK de collaborer avec cette marque ou pas forcément collaborer parce que aussi je travaille avec des partenariats non rémunérés qui sont par exemple des invitations dans des hôtels. Pour des événements, etc. J'y reviendrai plus tard, mais j'ai pu inviter Iris Mittenard et son copain Diego Leglaoui à la Villa Tage Marrakech pour les inviter en échange un jeu concours sur Instagram, etc., mise en avant en story sur leur compte personnel, etc. Et j'ai fait ça aussi récemment, l'été dernier, avec l'hôtel Biblos et les Caves du Roi à Saint-Tropez, où j'avais pu inviter une influenceuse avec qui je travaille, une influenceuse de Los Angeles, a séjourné à l'hôtel Biblos et j'avais également invité le DJ Diplo au Cave du Roi où là, pareil, je propose le lieu, oui ou non, qu'est-ce que nous, on peut offrir du côté du lieu, qu'est-ce que lui peut offrir, etc. Donc, c'est tout un process, on va dire, mais c'est pas... je sais que les... Beaucoup de gens se disent que c'est compliqué, que c'est trop compliqué, qu'il y a trop d'échanges, etc. Mais en fait, si tu es bien structuré, que si tu es bien pro et si tu es carré, on va dire, moi, je dirais pas que c'est simple, hein, mais c'est beaucoup plus fluide, on va dire. Mmh. Et après, bien sûr, il y en a d'autres qui vont dire que c'est super simple, t'envoies un virement à un influenceur, il fait sa story et voilà, il est content, mais alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, vraiment pas. C'est vraiment très... c'est très... alors, j'ai pas le mot en tête. C'est très encadré, voilà.
Ouais.
Surtout qu'il y a une nouvelle loi aujourd'hui, influenceur en France.
Exactement, exactement. Une loi qui est sortie récemment. Pour celles et ceux qui justement nous écoutent, est-ce que tu peux d'une part expliquer cette loi qui a aussi qui a créé une sorte de tremblement de terre dans le monde de l'influence et qui a beaucoup été évoquée, notamment sur certains médias. Pour ne citer que celui-ci, TPMP, on en a beaucoup parlé par exemple, par le fait qu'ils reçoivent souvent des influenceurs ou autres, mais il y en a plein d'autres, et ça a des enjeux quand même relativement importants dans le monde de l'influence et pour des agences notamment comme la tienne ou avec les gens avec qui tu travailles. L'évoquer d'une part, pour sensibiliser aussi les entrepreneurs qui nous écoutent et qui peut-être veulent utiliser ou utilisent le monde de l'influence pour se mettre en avant, et aussi dans ton cas, quels ont été les changements majeurs qui ont eu lieu à cause de cela?
Bah aujourd'hui, la loi influenceur en France, elle vise à, on va dire, à encadrer l'influence commerciale, et c'est surtout pour lutter contre, comment dirais-je, les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. En fait, aujourd'hui, et honnêtement, mon avis personnel, je trouve que c'est une super bonne idée, le fait de devoir systématiquement préciser, par exemple sur Instagram, et de l'écrire en fait sur les posts ou alors les stories que l'influenceur va faire, que c'est une collaboration commerciale rémunérée, non rémunérée ou bien juste une invitation. Ça, je trouve que ça permet d'avoir du contenu beaucoup plus réel pour les followers de ces influenceurs, parce que aujourd'hui, donc un follower lambda va savoir si l'influenceur qui suit la story qu'il va faire ou le post qu'il va faire, si c'est une collaboration ou si c'est juste ce qu'il fait un peu tous les jours, etc., et que ce n'est pas du tout une collaboration. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est une bonne idée et ça permet vraiment d'encadrer le contenu publicitaire sur les réseaux sociaux.
Complètement. Un autre point également, c'est l'évolution constante des algorithmes des réseaux sociaux. Il faut savoir que tous les 6 mois... tous les ans, tu as plusieurs fois dans l'année des modifications, des mises à jour, certaines minimes, d'autres majeures. Également, tu as de nouveaux réseaux sociaux, des fois, qui voient le jour. Comment est-ce que toi, tu fais pour adapter tes différentes stratégies de communication pour assurer une visibilité maximum à tes clients, que ce soit des clients type célébrité influenceur, mais aussi des clients, ceux qui voudraient utiliser l'influence ou des stratégies pour pouvoir développer davantage de visibilité et donc potentiellement s'adresser à un marché plus large. Est-ce que tu as des astuces spécifiques ou une méthode en particulier pour outrepasser ces changements d'algorithme, ou tout du moins outrepasser plutôt, je dirais, les downsides liés à ceci, éventuellement les anticiper de par des sources d'informations spécifiques ou encore de par des tests ou une anticipation que tu mets en place pour celles et ceux qui nous écoutent, qui puissent éviter ce type de problématiques. Je donne un exemple plus concret. Tu vois, récemment, il y a eu une mise à jour Google par rapport à un domaine spécifique. Exemple, le SEO de ce domaine a été complètement limite effacé de la toile. Instantanément, c'est des business qui faisaient peut-être plusieurs millions, voire dizaines de millions de chiffre d'affaires par an, qui en faisaient derrière quasi zéro. Ce type de situation, lorsque tu es monocanal et que tu es tributaire d'un réseau social ou d'une plateforme ou d'une image, elle peut arriver. Comment sans protéger le maximum ou anticiper les changements de ces systèmes le mieux possible?
Alors, bien évidemment, c'est différent pour chaque plateforme, mais je vais prendre un exemple. Par exemple, Instagram. On sait très bien qu'Instagram, ils changent leur algorithme tout le temps. C'est toujours en continu, ça change tout le temps. Donc, en fait, moi, mon conseil, c'est déjà dans un premier temps de suivre sur Instagram Adam Mosseri. Je ne sais pas si tu vois qui c'est le...
Oui. Voilà, c'est le CEO d'Instagram.
Voilà. Et en fait, lui donne des tips un peu tous les jours sur comment l'algorithme évolue, les nouveautés, ce qui va arriver, etc. Donc, en fait, grâce à lui et grâce à ses tips, on peut savoir quelles vont être les nouvelles fonctionnalités. Donc, forcément, quand une nouvelle fonctionnalité va sortir sur Instagram, elle va être énormément mise en avant. Donc, il faut bien préparer son arrivée, on va dire. Et par rapport, par exemple, à mes clients, quand l'algorithme d'Instagram va changer, donc par exemple, Instagram va plus pousser les carousels plutôt que les vidéos, ou alors un autre jour, il va plus pousser les réels qu'un post Instagram, enfin un post photo, on va dire, etc. Tout ça, faut le prévoir. Et pour les clients, créer du contenu, énormément de contenu et du contenu natif et différent et tout type de contenu, on va dire. On va créer des vidéos, format 4/5, des vidéos en format réel, des photos, format carré, des photos format 4/5 aussi également. Il faut faire tout type de contenu, même au niveau des stories. Et ensuite, avoir toute cette bibliothèque de contenu à activer en fonction du changement d'algorithme. Et aussi, il y a quelque chose qui est... Les gens n'y croient pas trop, mais c'est réel, on va dire. C'est que ce soit sur TikTok ou Instagram, si demain, on va, par exemple, poster, on veut publier un TikTok ou publier un réel, ces contenus-là seront beaucoup plus mis en avant sur la plateforme si ce contenu est créé à partir des outils de la plateforme. Donc, par exemple, un TikTok, si tu le crées directement via l'application, pas via une application de montage. Après, ça dépend, parce qu'il y a des applications de montage partenaires comme CapCut sur TikTok, où là, c'est connecté, on va dire. Mais sinon, voilà, il y a plein de petits tips comme ça qui sont dits très souvent par Adam Mosseri. Et voilà, il faut juste s'adapter et surtout anticiper les changements d'algorithme. Mais aujourd'hui, les gros changements, on les connaît. Une semaine, ça va être les vidéos qui vont être énormément poussées. Et une autre semaine, ça peut être les albums photos qui vont être énormément poussés aussi également. Donc, c'est très souvent lié, en tout cas sur Instagram. Sur TikTok aussi, on a eu beaucoup de changements. À une époque, c'était les vidéos de plus d'une minute. Maintenant, c'est les vidéos de moins d'une minute. Ça change très régulièrement. On a aussi l'arrivée des albums photos sur TikTok. On peut poster des photos. Ça aussi, ça a été pendant une période énormément mis en avant sur la plateforme. Donc, pareil, il faut juste s'adapter et avoir le contenu court.
Très clair. Pour avoir le contenu pour, il faut avoir la stratégie qui est établie. Est-ce que tu as un process en particulier pour construire une stratégie de contenu impactante pour les réseaux, quel que soit le réseau, quelle que soit la cible, et surtout comment tu identifies les éléments clés qui vont résonner avec l'audience cible tout en mettant en valeur la personne ou la marque pour laquelle tu travailles. Dit différemment, cette question finalement, c'est pour celles et ceux qui nous écoutent, souvent il est compliqué d'établir la stratégie sur le réseau social de son choix, donc là où se trouvent ses clients, où là on se sent le plus à l'aise, où là on a constitué une audience la plus engagée possible, qu'on aimerait travailler davantage pour potentiellement la convertir ou l'éduquer vers un produit, un service ou quelque chose que l'on veut vendre si nous sommes entrepreneurs, ou alors si c'est une audience qu'on veut derrière monétiser différemment. Toi, dans ton cas, imaginons, celles et ceux qui nous écoutent sont un nouveau client potentiel pour ton agence et tu leur mets à disposition une sorte d'audit ou de consulting généraliste gratuitement. C'est quoi le process que tu partagerais pour pouvoir établir de la manière la plus efficace possible une stratégie édito impactante, une stratégie de contenu impactante par rapport à ces réseaux?
Alors, ça demande évidemment beaucoup de travail. Et alors aujourd'hui, imaginons. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, je travaille avec plusieurs clients qui sont totalement différents. Donc, j'ai, on va dire, entre guillemets, l'expérience, on va dire, tout type d'expérience différente sur des stratégies digitales totalement différentes, passant d'un client à un autre. Donc, ce que je fais déjà dans un premier temps, c'est de voir avec le client ce que veut le client. Qu'est-ce qu'il aimerait mettre en avant si c'est... Bon, en prenant l'exemple d'un hôtel, par exemple. Un hôtel qui est peut-être assez fréquenté mais qui n'est pas forcément mis en avant sur les réseaux sociaux, et cet hôtel là veut mettre en avant son hôtel sur les réseaux sociaux et qui devienne connu, on va dire, sur le digital. Et ben, dans un premier temps, je vais demander quels seraient les objectifs en fait du client pour son hôtel, etc. Quelle manière il aimerait qu'on communique. En fait, déjà, dans un premier temps, je recueille tout ce que veut le client, tout ce que souhaite le client. Et ensuite, en fonction de ça, moi, je lui explique et je lui conseille de ce qui serait bien de faire et ce qui serait pas bien de faire, en fait. Et à ce moment-là, j'établis, suite à ce point-là, toute une stratégie digitale de reprise, on va dire, des réseaux sociaux. Donc, définition d'une charte graphique, quel type de contenu, les publications, les commentaires, la veille, etc. Il y a plein de choses en fait à mettre en place dans cette stratégie qui est, en tout cas pour moi, sous forme de présentation qu'ensuite le client aura toute la stratégie et une présentation qui sera mise à jour régulièrement, parce que la stratégie, bien évidemment, elle évolue. Il y a une stratégie de base, mais avec, comme tu disais, il y a l'arrivée des nouveaux réseaux sociaux, il y a les changements des algorithmes, etc. Donc, c'est toujours mis à jour, on va dire. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que je monte ma stratégie. Et très régulièrement, je demande aussi également au client s'il est satisfait, ce qu'il aimerait modifier. Et si, par exemple, il veut modifier quelque chose qui est fait, qui est bien fait, par exemple, mais lui n'aime pas trop. Et prendre un exemple simple. Imaginons, je fais un post, voilà, un post sur Instagram qui est totalement dans les codes d'Instagram, qui rentre dans l'algorithme, etc., qui est poussé, qui est le post parfait, on va dire. Mais imaginons, le client n'aime pas. À ce moment-là, je ne vais pas être totalement braqué et contre. Je vais lui dire, OK, et ben alors adaptons ce type de post à votre image, mais il faut également que ça suive les directives d'Instagram, par exemple. Et donc, moi, je suis toujours à l'écoute des clients. J'essaie toujours de trouver des solutions quand le client n'est pas forcément satisfait. J'essaie toujours de trouver des solutions pour que le contenu soit engageant, génère de l'engagement, etc. Et ça, en fait, c'est tout un travail de relationnel, en fait, avec le client. Et ça, c'est super important d'être très proche de ses clients et de ne pas les délaisser, on va dire, tout seul, et de faire tout le travail de son côté, et de souvent faire des rapports, des points, etc. etc. Voilà.
Très clair. Tout à l'heure, tu évoquais justement le fait de réussir à créer de la proximité aussi avec son audience. Souvent, les réseaux sociaux sont critiqués par leur aspect éphémère, superficiel, et au plus tu as de l'audience, au plus justement ça peut être complexe de créer cette proximité. Comment est-ce que tu fais pour construire une communication plus profonde entre les célébrités, les marques et leur communauté à travers ces différentes plateformes, sans pour autant surjouer la carte de l'authenticité, la transparence et j'en passe, mais juste en étant soi-même, tout en prenant en considération le fait que c'est travaillé, c'est réfléchi. Tu évoquais aussi le fait qu'il y a beaucoup de travail derrière ce type de stratégie très chiadée, en prenant en considération tous les enjeux qui s'y cachent. Ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue aussi là-dessus.
En fait, la question, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que les gens veulent. Qu'est-ce que les gens attendent de cette personne-là, par exemple. Et écouter les critiques, écouter les bons avis aussi, et en fait, de faire un mix des deux et de voir comment on peut optimiser au max les contenus de ces personnes-là. Et en fait, suite à ça, on arrive à un contenu qui est, on va dire, authentique, légitime, et qui va générer également de l'engagement et qui va plaire. Et on va essayer au moins déplaire aux internautes.
Ok, très clair. Et justement, est-ce que tu disais tout à l'heure, lorsque tu as un client qui vient, tu détermines l'objectif. Est-ce que finalement, donc ça c'est plus pour une marque qui te solliciterait pour une démarche d'influence ou quelque chose comme ça par exemple, est-ce que finalement, si moi je suis, je te donne un exemple, je suis un influenceur connu après un passage sur The Voice. J'ai un talent musical inné, incroyable, mais je suis pas encore au statut de certaines grandes célébrités connues en France. Est-ce que là aussi, on va établir une stratégie de communication qui est propre à mes objectifs? Exemple, passer sur un maximum de radio. Exemple, faire un prochain plateau télé. Exemple, créer un lien de proximité plus proche avec mon audience, de façon à créer une fanbase extrêmement puissante et donc pouvoir progressivement être plus sexy lorsque Certains organisent des événements, certains organisent des concerts, des choses comme ça pour pouvoir y être invité, ou ça fonctionne complètement différemment. Parce que là, on parle aussi finalement de stratégie de personal branding, entre autres. Et aujourd'hui, en 2023, 2024, 2025 prochainement, on voit qu'il est de plus en plus important, qui que l'on soit, qu'on soit une célébrité ou autre, mais aussi un entrepreneur, de développer son personal branding. D'ailleurs, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu as déjà commencé à faire depuis maintenant un certain temps. Sur tes réseaux, on le voit, dès lors que tu as l'opportunité aussi de publier des photos qui te mettent en avant, affichent un certain statut et qui dénotent ton expertise, tu le fais, tu construis donc un personal branding et c'est réfléchi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de plus si tu avais 2-3 conseils pour terminer justement sur ce sujet en termes de personal branding et stratégie de marque appliquée à un individu, que ce soit une célébrité, un talent tel que tu l'évoquais ou un entrepreneur qui désirait devenir davantage légitime sur son marché.
Alors, moi, je trouve qu'il faut, comme je le disais, mais je me répète beaucoup, c'est d'être authentique sur les réseaux sociaux. Mais après, il y a différents points. Il y a le premier point où, comme tu le disais, il y a une personne qui sort d'une émission, qui voilà, un chanteur et qui s'est super bien chanté, mais qui n'est pas forcément suivi sur les réseaux sociaux, mais qui aimerait développer en fait ses réseaux et avoir une fanbase. Et donc, à ce moment-là, moi, des personnes comme ça, j'en accompagne aujourd'hui. Et pour moi, c'est des challenges et j'aime beaucoup faire ça. Et il y a quelque chose que j'aime énormément faire, c'est ces talents-là, par exemple, que ce soit un chanteur ou autre, ces personnes-là ont un talent. Et donc, j'aime beaucoup les mettre en lien avec d'autres créateurs, d'autres talents, et qui sont, eux, suivis sur les réseaux sociaux et qui vont ensemble créer du contenu. Donc, ça va apporter de la visibilité à l'influenceur. Enfin, au talent, par exemple, comme tu prenais l'exemple d'un chanteur, ça va apporter de la visibilité au chanteur. Et créer du contenu, etc., avec d'autres talents, ça crée une synergie super cool, je trouve. Et prenons l'exemple d'un talent français, par exemple. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est... moi, je travaille avec beaucoup d'influenceurs, célébrités aux États-Unis, en Angleterre et en Italie. Et souvent, très souvent, ces talents-là, ils viennent à Paris pour la Fashion Week, pour toutes les Fashion Week durant l'année. Et c'est à ce moment-là où j'en profite de mixer, en fait, entre guillemets, hein, mes talents français avec mes talents étrangers. Et en fait, ça crée une synergie super cool parce que, bien évidemment, la France, le mec ou la meuf qui va parler français, etc., dans la story d'un Américain, ça va tout de suite faire réagir. Tout le monde adore les Français, tout le monde adore l'accent français, etc. Les Français qui ne parlent pas l'anglais et tout. Et ça crée un truc super cool. Et ça rapporte énormément de visibilité aux talents qui n'en avaient pas forcément beaucoup au début. Et c'est quelque chose qui est sympa. Aujourd'hui, j'ai des personnes que j'ai présentées il y a des années qui sont devenus super copains et qui aujourd'hui font créent du contenu ensemble tout le temps, partent en voyage avec des marques tout le temps, font des trucs super cool. Et ça, c'est un point. Et il y a aussi le point, comme tu le disais, de la médiatisation, donc invitation dans des plateaux télé, invitation à la radio, etc. Et tout. Et ça, je gère également ça. Pour faire la promotion d'une personne, il faut qu'il y ait une actualité. Donc forcément, on va essayer de trouver... un moyen de créer de l'actualité, etc., de sortir de nouvelles choses, de développer plein de nouveaux trucs, etc. Et ça, c'est tout un travail, ce qui est vrai. Et voilà, après, d'un autre côté, pour ce qui est entrepreneur, comme tu le disais, moi, c'est vrai que sur mes réseaux sociaux personnels, je poste, par exemple, quand je suis invité à un événement ou alors quand je suis en train de travailler pour un client, etc., je vais souvent poster photos de moi ou alors du lieu ou de l'endroit où je suis en montrant ce que je fais parce que je suis aussi un peu suivi sur les réseaux sociaux. Et ça, je trouve que pour un entrepreneur, je trouve que c'est super important de montrer en fait ce que tu fais, où tu es présent et également ce qui, qui tu es, on va dire, réellement, pour voir, en fait, je sais pas, un client se connecte aux réseaux sociaux de la personne avec qui il va travailler. Il a envie de voir ce qu'il fait, ce qu'il a pu faire avant, etc. Tout ce qui peut, voilà, tout ce qu'il peut créer comme contenu ou autre.
Merci Tristan pour ces éléments et pour tout ce que tu as pu partager dans le cadre de cet épisode. D'ailleurs, j'invite celles et ceux qui nous ont écoutés, comme je le fais à chaque fois, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée, mettre un avis également, ça nous aide énormément à continuer à ranker dans le top des podcasts en francophonie. On fera un article à LinkedIn aussi, comme on le fait à chaque fois, sur ton parcours, Tristan, et on partagera sous le lien de cet épisode tes réseaux sociaux, de façon à ce que celles et ceux qui nous ont écoutés puissent te découvrir, en savoir davantage sur toi et suivre ton parcours. J'ai envie de te poser la dernière question que je pose à chaque fois à nos invités. Est-ce que tu pourrais nous partager un déclic qui a littéralement créé une transformation, je dirais, identitaire chez toi? Ça peut être une simple phrase, ça peut être une citation, une situation, quelque chose de positif, quelque chose de moins positif, peu importe. J'ai envie de te dire, tu as carte blanche pour le mot de la fin, comme je dis à chaque fois. Je sais que tu écoutes plusieurs des épisodes du Déclic, donc tu te préparais peut-être à cette question. On a hâte de découvrir le tien.
Un de mes grands déclics pour moi, on va dire que c'est, je pense que c'est ça. À l'époque, quand j'avais 16 ans, j'avais réussi en fait à être invité à assister à des émissions de radio, sur Fun Radio, je me souviens bien. Et j'assistais pas aux émissions publiques, etc. Moi, ce que j'aimais vraiment, c'était l'animation de flux. Donc, c'est-à-dire les animateurs qui ont des émissions de 3-4 heures la journée, qui passent des musiques et qui font des interventions à l'antenne pour présenter les titres, actualité musicale et actualité people. Et ça, en fait, c'est ce qui m'intéressait. Donc, j'avais essayé de devenir pote avec une animatrice et qui m'invitait, en fait, pour que je découvre comment ça se passait réellement dans une vraie radio. Et j'y allais très souvent. Et moi, je lui expliquais que j'étais quelqu'un de très timide à l'époque. Et mon rêve, en fait, un jour, ce serait d'être quelqu'un super sociable, de pouvoir même faire des libres antennes. Donc, libres antennes, c'est une émission avec plusieurs animateurs où on me parlait de tout et n'importe quoi autour d'un sujet, sans forcément mettre de la musique. Et elle m'a expliqué qu'en fait, et ça, elle me l'a dit, qu'il fallait ne pas se prendre la tête, ne pas penser à la vie des autres, de se dire de vivre pour soi et de surtout pas prêter attention aux critiques et de pas se sentir mal parce que tu sens que t'as pas les capacités pour faire ça. En fait, il faut se lancer et voir si ça te convient ou si ça te convient pas. Et je pense que c'est depuis ce jour-là où j'ai pu, ça m'a énormément aidé à prendre confiance en moi et j'ai pu avancer. Et dès que je savais que j'avais quelque chose qui allait me mettre entre guillemets en avant, donc j'allais devoir m'exprimer en public, etc., je pensais à ça, je pensais à elle qui était, je m'en souviens à l'époque, une animatrice de flux, donc elle intervenait que très rarement à l'antenne et qui est devenue en fait une animatrice libre antenne qui en fait elle aussi s'est lâchée et a cartonné et elle a fait des trucs super cool. Et donc ça m'a beaucoup aidé, ça m'a inspiré aussi pour devenir moi aujourd'hui, on va dire.
Merci Tristan.
Mais merci à toi.